Le journal vous est présenté par Élodie Forêt.
Bonjour à tous. Deux visions du syndicalisme se font face pour ce 1er mai. D'un côté, la CGT et FO, bien décidés de mettre la barre à gauche toute. De l'autre, le bloc réformiste mené par la CFDT. Un 1er mai sous tension, rarement le contexte a été aussi tendu, avec une violence sociale que nous décryptera dans quelques minutes Jean-Michel Denis, spécialiste des syndicats et des mouvements sociaux. Dans l'actualité aussi, la visite de Jean-Marc héros au Mali, un nouveau tournant dans la crise politique irakienne et puis cette tradition toute américaine, le dîner des correspondants de la Maison Blanche. Pour sa dernière apparition, Barack Obama a fait un discours savoureux, raillant tous ses potentiels successeurs, républicains comme démocrates. C'est un rituel, le 1er mai, les syndicats descendent dans la rue pour fêter les travailleurs. Cette année, le symbole est particulièrement fort. À deux jours de l'arrivée à l'Assemblée de la loi El Khomri, les opposants au texte comptent bien remettre un coup de pression. Mais malgré l'enjeu, difficile de former un défilé unitaire. Mathieu Péris.
Ce sont deux mondes qui vont s'affronter à distance cet après-midi. Le bloc de l'opposition au projet de loi d'abord. Pour la première fois depuis 2009, les leaders de la CGT et de Force ouvrière marcheront ensemble un 1er mai. Les frères ennemis ont mis de côté leur querelle, le temps d'une lutte commune. À leur côté, on trouvera la FSU, Solidaire et les mouvements de jeunesse UNEF, FIDEL et UNEL. En parallèle, le bloc dit réformiste, à sa tête la CFDT, suivie de la CFTC, de l'UNSA et de la FAGE. Eux ont demandé et obtenu des changements au projet de loi initial. Ils ont prévu d'organiser des rassemblements militants. Deux blocs qui semblent s'éloigner de plus en plus. En lien étroit avec le gouvernement, la CFDT joue la carte de l'apaisement après les violences qui ont émaillé les dernières manifestations. À la CGT, au contraire, le discours se radicalise depuis quelques semaines. Il faut dire que la mobilisation a tendance à s'essouffler à chaque journée d'action. Alors pour attirer, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a mis la barre à gauche toute et la CGT se replie sur sa base la plus dure. Un choix stratégique avec la perspective de 2017 en toile de fond. Dans un an aura lieu la prochaine mesure de la représentativité des syndicats et la CFDT pourrait passer devant la CGT. Le basculement serait historique. Avec cette mobilisation du 1er mai, la CGT et ses alliés ne jouent donc pas seulement leur victoire contre le gouvernement, mais aussi leur survie.
Et la crainte du gouvernement, mais aussi des syndicats, c'est que de nouvelles violences aient lieu cet après-midi. Hier, Bernard Cazeneuve a donné des consignes strictes, exigeant des organisateurs un service d'ordre interne structuré, identifiable et suffisamment dimensionné, capable d'isoler les éventuels casseurs. Jean-Michel Denis est sociologue à l'Université de Marne-la-Vallée, spécialiste des syndicats et des mouvements sociaux. Pour lui, rien d'étonnant à ce que ces manifestations puissent déraper, car elles ont lieu dans un contexte de tension plus global.
Cette question de la violence trouve une résonance un petit peu particulière dans un moment où le pays est lui-même confronté à d'autres types de violences et à des mesures de protection un petit peu inédites. Donc ça fait écho avec l'actualité dans une certaine mesure. À l'issue des attentats, on avait l'impression que le lien entre la population et la justice et la police était renoué. Mais là, on a l'impression un petit peu à l'inverse que on a affaire de nouveau à des effets de violence, mais qui me semblent plutôt être le produit d'effets d'exaspération, quoi. Une espèce de colère qui a été rentrée pendant très longtemps, qui accompagne plein de mobilisations un petit peu ponctuelles, soit localisées. C'est pas pour rien d'ailleurs que, par exemple, ces manifestations violentes ont lieu dans des villes comme Nantes, Rennes, etc. C'est-à-dire des lieux où il y a eu des mobilisations autour de Notre-Dame-des-Landes, etc., etc., qui ont duré longtemps, qui continuent à durer, et sur lesquels on a l'impression que les rancœurs, les exaspérations sont toujours aussi vives. Donc, plus, j'allais dire, une espèce de mécontentement un petit peu généralisé vis-à-vis de la politique du gouvernement, et ça depuis de longues dates. Donc, tous ces éléments doivent être pris en considération pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le cadre de ces actions violentes.
Le sociologue Jean-Michel Denis. Le 1er mai depuis 1979, c'est aussi la journée que choisit le Front National pour se rassembler avec une traditionnelle manifestation devant la statue Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. Mais cette année, seul Jean-Marie Le Pen et ses partisans seront de la fête. Sa fille Marine, qui l'a exclue du parti, inaugure une nouvelle formule qui se veut plus moderne. Un banquet patriote dans le nord de la capitale, sur invitation. Manuel Valls, lui, sera loin de la métropole pour ce 1er mai. Le Premier ministre termine son séjour en Nouvelle-Calédonie. Et avant de se rendre, comme prévu, en Nouvelle-Zélande, il fera un crochet par l'Australie pour saluer le contrat extrêmement juteux remporté par DCNS. 34 milliards d'euros pour construire la nouvelle génération de sous-marins australiens. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, arrive lui au Mali aujourd'hui avec son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier. Une visite pour soutenir le processus de paix, soutenir aussi les soldats de la force Barkhane et de la MINUSMA. À Bamako, les précisions de David Bachet.
Cette visite conjointe vise d'abord à afficher l'engagement de la France et de l'Allemagne dans le processus de paix malien. La mise en œuvre de l'accord signé en juin dernier progresse, mais de façon très laborieuse, et c'est ce dont les deux ministres discuteront avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et avec l'ensemble des parties signataires de l'accord, dont les groupes armés du Nord. Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier se rendront également à Gao, dans le Nord, pour rencontrer les soldats de la force française Barkhane, ainsi que les militaires allemands intégrés à la mission onusienne dans le pays, et dont le nombre a récemment été augmenté par Berlin. Et ce, alors que la présence des forces internationales est de plus en plus critiquée par une partie de l'opinion malienne. Il y a deux semaines, une manifestation anti-Barkhane à Kidal a dégénéré. Les manifestants ont saccagé l'aérodrome gardé par les casques bleus. Bilan, 2 morts et une enquête en cours au sein de la mission onusienne.
Le chaos à Bagdad, hier, des milliers de manifestants, partisans du chef chiite Moqtada Sadr, ont envahi le Parlement. Pendant plusieurs heures, ils ont crié, chanté, brandi des drapeaux irakiens, réclamant toujours la formation d'un nouveau gouvernement capable de mettre fin à la crise politique et de lutter contre la corruption qui gangrène le pays. À Bagdad, Angélique Ferrat.
C'était assez surréaliste de voir des hommes tout simplement grimper sur les murs anti-explosion et entrer dans la zone verte, cette zone ultra sécurisée où se trouvent le Parlement, le gouvernement et l'ambassade américaine. La police n'a pas bougé. À l'intérieur, tout le monde filmait, prenait des selfies, chantait, on est entré. Ce manifestant est originaire de l'extrême sud de l'Irak, Misr.
Seyed Al-Moqtada leur a demandé des réformes et un changement de gouvernement. Il leur a demandé de changer les gens corrompus. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont rien fait.
Khaled Abbas, 63 ans, lui, entre tant bien que mal avec sa canne, entraînant la jambe.
Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire de l'Irak. C'est le plus grand jour historique depuis 2003. C'est aujourd'hui une victoire sur les corrompus, les voleurs qui ont volé l'argent des Irakiens. Aujourd'hui, nous disons au monde que les Irakiens ont repris le pouvoir pour diriger eux-mêmes le pays. C'est le jour du peuple. Nous n'allons pas rentrer chez nous.
Moqtada al-Sadr est un religieux chiite très populaire. Son mouvement politique fait partie de la majorité chiite au Parlement. Il séduit les masses pauvres des villes irakiennes et aujourd'hui, il est dans le camp des réformistes.
Il faut que les bombardements cessent sur Alep et qu'un vrai cessez-le-feu reprenne. C'est le message que John Kerry va délivrer aujourd'hui à Genève. Le secrétaire d'État américain va s'entretenir avec Staffan de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie, chargé des pourparlers de paix. C'est une tradition américaine. Le président Barack Obama a participé hier soir au dîner des correspondants de la Maison Blanche, un gala mondain créé il y a près de 100 ans où se rassemblent chaque année près de 3000 personnes, des stars du petit écran, des vedettes politiques et des acteurs fétiches d'Hollywood. Et pour ce dernier dîner en tant que président, Barack Obama s'est fait un petit plaisir, raillant dans son discours tous ses potentiels successeurs. Donald Trump en tête. À Washington, Sonia Dridi.
C'est la soirée de l'année où le président américain fait son one-man show et pour sa dernière prestation, Barack Obama s'est naturellement inspiré de la campagne présidentielle. Parmi ses potentiels successeurs, le candidat républicain mégalo Donald Trump.
C'est surprenant. Il y a une salle pleine de journalistes, de célébrités, de caméras, et il dit non. Que peut-il bien faire à la place? Est-il chez lui en train de manger un Trump steak? Ou alors en train de tweeter des insultes à Angela Merkel?
Cette année, Trump n'a pas souhaité être de la partie, tout comme Hillary Clinton, qu'Obama voit déjà présidente.
L'année prochaine, à cette époque, un autre que moi sera ici à ma place. Et tout le monde se demande qui elle sera.
Il ne l'a pas épargné pour autant.
Vous devez l'admettre, Hillary qui essaye de séduire les jeunes électeurs, c'est un peu comme vos parents qui essayent de se mettre à Facebook.
Un clin d'œil au démocrate Bernie Sanders, populaire auprès des jeunes et présent dans la salle. Obama a fini son monologue en lançant
« Obama, dehors !»
puis a lâché son micro de comédien pour reprendre son costume de commandant en chef des armées.
On jette un œil à la météo, un ciel toujours très nuageux ce matin sur la Champagne-Ardenne, l'Alsace et le Massif central. Des éclaircies prévues cet après-midi. Dans le sud-est, attention, risque d'orage dans la matinée.